السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے
J'évoquais dans mon précédent sermon le traité de Hudaybiyah en référence à Omar bin al-Khattab. On rapporte à ce sujet que les Banu Bakr, une des alliées des tribus Qurayshites, a violé le pacte de Hudaybiyah et a attaqué la tribu Banu Khuza, l'alliée des musulmans. Les Qurayshites avaient d'ailleurs aidé les Banu Bakr en leur fournissant armes et montures, violant ainsi le traité de Hudaybiyah. Sur ce, Abu Sufyan est venu à Médine et il a voulu renouveler le traité de Hudaybiyah. Il est parti voir le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, mais celui-ci ne lui a pas répondu. Ensuite, Abu Sufyan s'est rendu chez Abu Bakr et il lui a demandé d'intercéder auprès du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, en sa faveur. Mais Abu Bakr a refusé de le faire. Sur ce, Abu Sufyan s'est rendu chez Omar radhiyallahu anhu et il lui a parlé. Omar lui a répondu : « Souhaites-tu que j'intercède en ta faveur auprès du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui ? Par Dieu, même si je possède ne serait-ce qu'une brindille, je me battrai contre vous avec. » Le docteur Ali bin Salabi écrit ceci à propos de la conquête de la Mecque. Quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est arrivé à Mardou Zahran, Abu Sufyan a commencé à s'inquiéter à propos de sa personne. Abbas, l'oncle du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, lui a conseillé de demander la protection du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Abbas déclare : J'ai dit à Abu Sufyan, « Malheur à toi, l'envoyé d'Allah est présent. » Abu Sufyan a répondu, « Que mes parents soient sacrifiés pour toi. Comment me sortir d'affaire ?» Abbas a répondu, « Par Allah, si ces gens t'attrapent, ils vont te tuer certainement. » Monte sur la mule derrière moi, je te présenterai au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ensuite, je lui demanderai de t'accorder sa protection. Abbas déclare que Abu Sufyan est monté derrière moi. Quand je passais devant un des feux allumés par les musulmans, il me demandait qui m'accompagnait sur la mule. Il faisait nuit et les musulmans avaient allumé des feux. Et quand il voyait le mulet du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et que j'étais dessus, il s'exclamait : L'oncle de l'envoyé d'Allah se trouve sur son mulet. J'ai avancé tant et si bien que je suis passé devant le feu d'Omar bin al-Khattab. Il m'a demandé : Qui est-ce ? Omar s'est tenu à côté de moi. Lorsqu'il a vu Abu Sufyan, il s'est exclamé, « Abu Sufyan, l'ennemi d'Allah, toutes les louanges appartiennent à Allah qui nous a accordé la victoire sur toi sans qu'on s'engage. » Ensuite, Abbas a présenté Abu Sufyan au saint prophète Mohammed bin Sassoui. Omar était aussi de la compagnie. Il a déclaré au envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Permettez-moi de décapiter Abu Sufyan. » Abbas a déclaré au envoyé d'Allah, « Je lui ai offert ma protection. » Quand Omar a insisté, j'ai déclaré, « Oh Omar, attends un peu. Si Abu Sufyan appartenait à ta tribu, les Banu Radi, tu n'aurais pas répété ses propos. » Tu sais qu'il appartient au Banu Abd Manaf. Omar a répliqué, écoute Abbas, par Allah, la conversion à l'islam m'a réjoui plus que la conversion probable de mon père. Or, je savais que le saint prophète Mohammed Bissas lui apprécie davantage ta conversion que celle de mon père. Sur ce, le saint prophète Mohammed Bissas lui a déclaré, « Abbas, retourne avec Abu Sufyan et reviens le lendemain matin. » C'était là une conversation entre Omar et Abbas. En fin de compte, le saint prophète Mohammed Bissas lui a demandé à Abbas de repartir avec Abu Sufyan, étant donné que Abbas lui avait accordé sa protection. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait quant à lui rien à dire à Abu Sufyan. Abu Bakr bin Abdurrahman relate qu'au cours du mois de Charban, en l'an 7 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed Bissas lui avait envoyé Omar bin al-Khattab pour une expédition avec 30 personnes dans la vallée de Tarouba contre un des clans des Banu Hawazin. Cette vallée est située à 2 jours de voyage de la Mecque et les Banu Hawazin y résidaient. Il s'agit de 2 jours de voyage à dos de monture qu'on utilisait à l'époque. Burida Aslami relate que quand le saint prophète Mohammed Bissas lui est descendu à Khaybar, il a confié son étendard à Omar bin Khattab. Là où il sera question de distance mesurée en termes de jours, il s'agira de voyages parcourus à dos d'animal. Selon les recueils de Sira, les drapeaux ont été évoqués la toute première fois en référence à la bataille de Khaybar. On évoquait naguère que des étendards. Burida Aslami relate que le saint prophète Mohammed Bissas lui est parti à Khaybar et il a confié son étendard à Omar bin Khattab. Selon les recueils de Sira, les drapeaux ont été évoqués la toute première fois en référence à la bataille de Khaybar. On évoquait avant cela que des petits étendards. Le drapeau du saint prophète Mohammed Bissas lui était de couleur noire. Ce drapeau a été préparé à partir d'un drap appartenant à Aïcha Radutalanha et ce drapeau était nommé Uqab. Et le deuxième drapeau du saint prophète, puis soit lui, était blanc et ce drapeau a été confié à Ali Radutalanhu. Le premier drapeau était de couleur noire et a été préparé à partir d'un drap appartenant à Aïcha. À la mère des croyants, le deuxième drapeau était de couleur blanc. Il avait confié à Ali. Le saint prophète avait confié un autre drapeau à Habba bin Munthir et un autre drapeau à Sa'ad bin Ubada. Lorsque le saint prophète Mohammed Bissas lui a visité Khaybar, il souffrait de douleurs à la tempe et il ne pouvait pas sortir. À cette occasion, il a d'abord confié son drapeau à Abu Bakr. Ensuite, il a offert le même drapeau à Omar. La bataille était violente ce jour-là, mais les musulmans n'ont pas pu conquérir la forteresse. Le saint prophète Mohammed Bissas lui a déclaré, « Demain, je confierai le drapeau à la personne par qui Allah accordera la victoire. » Ainsi, le lendemain, le saint prophète a confié le drapeau à Ali.
حضرت علی کو عطا فرمایا جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے
Et Allah a accordé la victoire par l'entremise de Ali radiyallahu anhu. Ibn Ishaq déclare : J'ai demandé à Ibn Shahab Zuhri sous quelles conditions le saint prophète paix soit sur lui avait-il confié les palmeraies de Khaybar aux Juifs. Zuhri a déclaré que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait conquis Khaybar après la bataille. Khaybar était l'une des richesses qu'Allah avait accordées au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Un cinquième était pour le messager d'Allah et le saint prophète paix soit sur lui l'a distribué parmi les musulmans. Certains juifs sont descendus de leur fort après la bataille et ils étaient prêts à partir en exil. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les a appelés et il leur a dit: Il leur a dit que si vous le souhaitez, ces propriétés peuvent vous être confiées, à condition que vous y travailliez et que les fruits soient distribués parmi nous et vous. C'est-à-dire que la division de cette propriété se fera si vous souhaitez rester ici. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré : Je vous ferai rester là où Allah souhaite que vous demeuriez. Les Juifs ont accepté sa proposition. Les Juifs ont continué à travailler dans ses palmeraies. Le saint prophète, Mohammed, paix soit sur lui, avait l'habitude d'envoyer Abdullah bin Rawaha pour distribuer les fruits de ses palmeraies et de faire preuve d'équité dans l'estimation des fruits pour les Juifs. Non pas qu'il gardait pour lui les bons fruits. Tous ces fruits étaient distribués équitablement entre les musulmans et les Juifs. Ensuite, quand le saint prophète, paix soit sur lui, est décédé, Abu Bakr a également traité les Juifs de la même manière, à l'instar du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Omar les a traités de la même manière au début de son califat. Ensuite, Omar a su que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait déclaré lors de sa dernière maladie que deux religions ne pourront pas coexister dans la péninsule arabique. Omar a fait des recherches à ce propos et quand cela a été avéré, il a écrit aux Juifs de Khaybar : Allah a ordonné votre expulsion. J'ai reçu la nouvelle que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait déclaré que deux religions ne coexisteront pas dans la péninsule arabique. Si le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait fait un pacte avec un juif, eh bien qu'il se présente afin que je puisse l'entériner. Celui qui n'a pas conclu d'alliance avec le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, peut se préparer à l'exil. Si le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait fait une promesse avec quelqu'un, eh bien il pouvait rester. Je vais respecter cette promesse. Mais s'il n'y a pas pareille promesse, vous allez devoir quitter cet endroit. Omar a donc exilé ceux qui n'avaient pas conclu d'alliance avec le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah bin Omar déclare : Je suis parti avec Zubair bin Awam et Miqdad bin Aswad pour aller voir ma propriété à Khaybar. Quand nous y sommes arrivés, nous nous sommes séparés afin de voir de propriétés. J'ai été attaqué durant la nuit, lorsque je dormais dans mon lit. Les articulations de mes bras ont été disloquées de mes coudes. Le lendemain matin, mes deux compagnons sont venus vers moi en criant et tous deux ont demandé « Qu'est-ce qui t'a fait cela ?» J'ai répondu que je l'ignorais. Tous deux ont remis mes bras à leur place. Ils m'ont emmené chez le calife Omar. Celui-ci a déclaré « C'est un acte des Juifs ». Ensuite, il s'est adressé au peuple et il a dit, Omar a dit, « Aux gens, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait conclu un traité avec les Juifs de Khaybar, à la condition que nous les expulserons quand nous le souhaiterons. » Les Juifs ont attaqué Abdullah bin Omar et ils ont disloqué ses bras. Et vous avez su à ce propos, ils avaient déjà attaqué un Ansari et nous n'avons aucun doute qu'il s'agit en fait de leurs alliés qui sont en train de commettre ces actions. Nous n'avons aucun ennemi là-bas à part eux. Quiconque possède des biens de Khaybar doit s'en occuper car je vais expulser les Juifs. Et Omar les a expulsés. Abdullah bin Mahnaf relate que lorsque Omar a chassé les Juifs de Khaybar, il est monté avec les Ansar et les Muhajirin. Jabad bin Sakhr et Yazid bin Thabit sont également sortis avec eux. Jabbar était celui qui estimait les fruits pour les habitants de Médine, et il était leur comptable. Tous deux ont divisé Khaybar parmi ses membres conformément à la division existante. Il y a l'incident de la lettre qui a été envoyée par Hatib par l'entremise d'une femme à la Mecque. Hatib voulait informer secrètement les polythéistes de la Mecque à propos de certaines intentions du saint prophète Mohammed bissas à lui. Allah avait informé le saint prophète Mohammed bissas à lui qui a envoyé Ali. La femme a été interceptée en cours de route. Le saint prophète Mohammed bissas à lui a questionné Hatib à ce propos. Hatib a offert ses explications. Il a déclaré que sa foi ne s'était pas affaiblie. Il a déclaré que sa foi était tout aussi parfaite. Hatib a offert ses assurances au saint prophète Mohammed bissas à lui et le saint prophète Mohammed bissas à lui a accepté ses explications. Mais Omar a déclaré quant à lui, « Ô messager d'Allah, laissez-moi décapiter cet hypocrite. » Le saint prophète Mohammed bissas à lui a déclaré, « Sais-tu que Hatib a participé à la bataille de Badr ?» Et sais-tu que le saint prophète Mohammed bissas à lui a déclaré à propos de ceux qui ont pris part à la bataille de Badr ?« Faites ce que vous souhaitez. J'ai fermé les yeux sur vos péchés et je vous ai pardonné. » Il existe un autre incident qui n'est pas lié directement à Omar radhiyallahu anhu, mais il y a été mentionné implicitement. J'en fais mention ici. Abu Qatada déclare que lors de la bataille de Hunayn, j'ai vu un homme parmi les musulmans qui combattait un polythéiste. Un autre polythéiste l'a trompé et l'a secrètement attaqué par derrière. Voyant cela, je me suis précipité vers l'homme qui voulait tromper ce musulman. Il a levé sa main pour me frapper. Et j'ai frappé la sienne, et je l'ai tranché. Ensuite, il m'a attrapé, et il m'a tiré si fort que j'étais tout impuissant. Puis il m'a laissé, et il s'est relâché, et je l'ai poussé, et je l'ai tué. D'autre part, les musulmans avaient été vaincus, et ils étaient en déroute, et j'ai également pris la fuite avec eux. Ensuite, j'ai vu qu'Omar bin Khattab était avec eux. Je lui ai dit, « Pourquoi les musulmans ont-ils pris la fuite ?» Omar a répondu, « C'est la volonté de Dieu. » Puis le peuple est retourné avec le messager d'Allah. Le saint prophète Mohammed bissas lui a déclaré, « Quiconque apporte la preuve qu'il a tué un tel, eh bien, les biens de sa victime lui appartiendront. » Je me suis levé pour chercher des preuves sur ma victime, mais je n'en ai pas trouvé et je me suis assis. Ensuite, je me suis dit que je dois raconter l'incident à propos de cette personne au saint prophète Mohammed bissas à lui. Et une personne de l'assistance a déclaré, « J'ai les armes de celui qui l'a tué. » Au lieu de lui offrir ses armes, offrez-lui quelque chose en échange pour le satisfaire. Abu Bakr a déclaré, « Il n'est pas possible pour l'envoyé d'Allah de donner les biens à une personne ordinaire de parmi les Quraychites et de laisser les mains vides l'un des lions d'Allah, un lion d'Allah qui s'est battu pour Allah et pour son messager. » Abu Qatada déclare, « Le saint prophète Mohammed bissas lui s'est levé et il m'a offert ses biens. J'en ai acheté une petite palmeraie. C'était la première propriété que j'ai acquise en islam. » Ibn Omar relate, « Lorsque nous sommes revenus de Hunayn, Omar a interrogé le saint prophète Mohammed bissas lui sur un vœu qu'il avait fait à l'époque de l'ignorance, c'est-à-dire le fait d'accomplir l'itikaf. Le saint prophète bissas lui lui a demandé d'accomplir ce vœu, même si ce vœu date de l'époque de l'ignorance. » Ainsi donc, Il est nécessaire de remplir toute promesse qu'on a pu faire dans le passé tout en respectant les principes de l'islam. C'est là une des conditions qui accompagne ses vœux. Quel était le rôle de Omar lors de la bataille de Tabouk? Avant cette bataille, le saint prophète Mohammed lui avait fait un appel spécial pour des dons. Omar radiallahu relate son histoire en ces termes. Il déclare, « Un jour, le saint prophète Mohammed lui nous a demandé de faire de l'aumône. J'avais des biens à l'époque et je me suis dit, aujourd'hui est le jour de dépasser Abou Bakr. Et j'ai apporté la moitié de mes biens. Le saint prophète Mohammed lui m'a demandé, « Qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille ?» J'ai dit que j'avais laissé autant que j'avais apporté, c'est-à-dire la moitié. Abou Bakr, quant à lui, a apporté tout ce qu'il possédait. Et moi, j'ai apporté la moitié de mes biens. Et Abou Bakr a apporté, quant à lui, tout ce qu'il possédait. Le saint prophète Mohammed, lui a posé la même question, à savoir ce qu'il avait laissé pour sa famille. Abou Bakr a répondu que je leur ai laissé Allah et son messager. Omar s'est dit que j'ai compris que je ne pourrais jamais le devancer dans quelque domaine que ce soit. Hazrat Muslim Aoud, radiallahu, relate à ce propos que Omar raconte à propos d'un djihad que Abou Bakr me dépassait toujours et je me suis dit qu'aujourd'hui je vais le dépasser. Je suis rentré chez moi et j'ai pris la moitié de ma fortune et je l'ai présentée au saint prophète Mohammed bin Sassoui. C'était une période de grande épreuve pour l'islam, mais Abou Bakr a porté toute sa fortune et il les a offertes au saint prophète Mohammed bin Sassoui. Le saint prophète Mohammed lui a demandé « Qu'est-ce que tu as laissé à la maison ?» Il a répondu « J'ai laissé à la maison Allah et son messager. » Omar a déclaré que j'étais très embarrassé d'entendre cela et j'ai pensé qu'aujourd'hui je souhaitais surpasser Abou Bakr, mais même aujourd'hui il m'a dépassé. Le Messie premier Islam déclare à propos de cet incident: il fut un temps où les gens sacrifiaient leur vie comme des moutons et des chèvres pour la religion divine. On trouve mention des fortunes des uns et des autres. Abou Bakr Siddiq a sacrifié toute sa fortune plus d'une fois. Ce n'était pas un événement ponctuel. Cela s'est passé plus d'une fois. Et Abou Bakr n'a même pas gardé une aiguille à la maison. Plus d'une fois, Omar, selon ses dispositions, et Othman, selon ses moyens, et selon son statut, en ont fait de même. Tous les compagnons étaient prêts à sacrifier leur vie et leurs biens pour cette religion divine. En référence à sa jamaat, le Messie premier Islam explique à ce propos. C'en est là l'exemple de ses compagnons. C'était là l'exemple de ses premiers compagnons, mais il y a aussi d'autres qui, dans ma jamaat, font la baïra et promettent de préférer la religion au monde. Mais quand on leur demande de l'aide et du soutien, ils ferment leurs poches. Peut-on atteindre quelque but religion en aimant ainsi le monde? L'existence de telles personnes peut-elle être bénéfique à la cause prophétique? Absolument pas. Allah, quant à lui, déclare « Jamais vous n'atteindrez à la vraie droiture tant que vous ne dépensez pas vos biens les plus chers dans la voie de Dieu. » Quelle a été la réaction de Omar radhiyallahu anhu lorsque le saint prophète Mohammed lui est décédé? Ibn Abbas radhiyallahu anhu relate à ce sujet que l'heure de la mort du saint prophète Mohammed lui approchait. Et il y avait des hommes à la maison, parmi lesquels il y avait Omar bin al-Khattab. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: « Laissez-moi vous faire écrire quelque chose après laquelle vous n'allez pas vous égarer. » Il s'agit des derniers jours de la maladie du Saint-Prophète Mohammed bin Sassoui. Sur ce, Omar a dit aux gens qui étaient assis autour de lui, « L'envoyé d'Allah est très malade et vous disposez du Saint-Coran. Le livre d'Allah vous suffit. » Les gens de la maison n'étaient pas d'accord et ils se sont disputés. Et lorsque le débat a commencé, certains d'entre eux disaient, apportez un morceau de papier et une plume afin que l'envoyé d'Allah puisse vous écrire quelque chose, après quoi vous n'allez pas vous égarer. Certains d'entre eux répétaient ce que disait Omar, à savoir, ne dérangez pas le prophète de Dieu. Lorsque la discussion a pris de l'ampleur, le saint prophète Mohammed Pesos lui a déclaré, sortez d'ici. Ce récit est tiré du recueil de Muslim. On en trouve aussi mention dans le recueil de Bukhari. Obaydullah bin Abdullah rapporte d'Ibn Abbas que quand la maladie du saint prophète Mohammed Pessoa lui s'était aggravée, le saint prophète Pessoa lui a déclaré « Apportez-moi quelque chose pour que je puisse vous dicter des consignes que vous n'oublierez pas. » Omar a dit à ceux qui étaient autour de lui, la maladie du saint prophète Mohammed Pessoa lui s'est aggravée. Mais nous disposons du livre d'Allah et cela nous suffit. Il voulait dire que le Saint-Coran nous suffit, c'est pour cette raison que ce n'est pas la peine de déranger le Saint-Prophète, que ce soit lui. Ceux qui étaient présents ont commencé à discuter entre eux et ils ont fait beaucoup de bruit. Le Saint-Prophète a déclaré « Levez-vous et partez de là. Vous ne devez pas vous disputer autour de moi. » Sur ce, Ibn Abbas est sorti et il disait « La plus grande perte était qu'on avait empêché le saint prophète Mohammed Pessoa à lui d'écrire ce qu'il souhaitait. » Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Saheb a commenté sur cette partie de ce que je viens de présenter. Il commente sur certains termes de ce hadith. Il déclare que les paroles La Tadullu Bardahu démontre clairement que même durant ces derniers jours, le saint prophète Mohammed Pessoa à lui était soucieux par le fait que les musulmans puissent sombrer dans l'oubli. Et c'est pour cette raison qu'il voulait consigner quelques conseils en leur faveur. Dalaloun signifie oublier et s'égarer. Une autre phrase de ce hadith est Ghalabahul Wajra. C'est-à-dire que la maladie avait épuisé le saint prophète Mohammed Pissos à lui. Mohammed avait prononcé ces paroles. Shah Saheb déclare qu'Omar n'imaginait même pas que le saint prophète Mohammed Pissos à lui pouvait mourir. Et il a déclaré que nous disposons du livre d'Allah et cela nous suffit. Car Allah, dans la Sourate Al-An'am, déclare Ma faratna fil kitabi min shay. Ma faratna fil kitabi min shay. C'est un verset de la Sourate Al-An'am. Ensuite, dans un autre verset, il est dit Tibyanan likulli shay. C'est-à-dire que ce livre explique tout clairement et nous n'y avons laissé aucune lacune. Dans le récit, il est dit « La yanbari inda tanazur », c'est-à-dire, certaines personnes étaient sensibles à l'instar d'Omar et ils ont déclaré qu'il ne faut pas déranger le saint prophète Mohammed Pessoa lui en pareil moment. D'autres disaient qu'on devait obéir à l'ordre du saint prophète Pessoa lui et lui apporter du papier et de l'encre. Mais lorsque la dispute a éclaté entre eux, le saint prophète leur a demandé de partir. Il a dit « Ne faites pas du bruit auprès de moi ». Cela démontre que le saint prophète Mohammed Pessoa lui avait un tel respect pour le livre d'Allah que même dans cet état d'agitation, après avoir écouté Omar, il n'a pas répété la requête de lui apporter du papier et de l'encre. Selon un autre récit d'Al-Bukhari, le saint prophète a vécu quelques jours après cet incident et il a prodigué d'autres conseils, mais il n'a pas répété cette requête. Ces commandements qu'il souhaitait faire consigner en écrit étaient d'ores et déjà présents dans le livre d'Allah. C'était comme s'il voulait insister de s'accrocher au Saint-Coran. Le Saint-Prophète Mohammed Pessoa lui a soutenu Omar et il est resté silencieux. Il s'agit d'une déférence que ne respectent pas les soi-disant savants d'aujourd'hui. Les soi-disant savants d'aujourd'hui ne respectent pas cette déférence. Lorsqu'ils expriment une opinion, ils la considèrent comme une révélation divine. Nous ne devrions jamais oublier l'exemple pur du saint prophète Mohammed Pessoa à lui. Rien n'a de l'importance en présence du livre d'Allah. Urwa bin Zubair relate ceci de la part d'Aïcha, l'épouse bénie du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Elle déclare, l'envoyé d'Allah est décédé et Abu Bakr était à Sunuh, qui est situé à 3 km dans les alentours de Médine. En entendant cette nouvelle, Omar s'est tenu debout et il a déclaré « Omar était parti dans la banlieue, il est retourné et lorsqu'il a reçu cette nouvelle, et il a déclaré que par Allah, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas mort. » Aïcha disait que Omar avait l'habitude de dire « Par Dieu, c'est cette pensée qui m'a traversé le cœur. » Il a déclaré, je me suis dit qu'Allah enverra certainement le saint prophète Mohammed P.S.A. lui afin que le saint prophète puisse trancher les mains et les pieds de certaines personnes. Omar n'était pas prêt d'accepter que le saint prophète P.S.A. lui était décédé, il croyait qu'il allait retourner à la vie. Entre-temps, Abu Bakr est revenu. Il a enlevé le tissu qui recouvrait le visage du saint prophète et il a embrassé en disant que mes parents soient sacrifiés pour vous. Vous êtes pur dans la vie comme dans la mort. Je jure par celui qui détient ma vie entre ses mains. Allah ne vous fera pas goûter de mort. En disant cela, Abu Bakr s'est rendu dans l'assistance et il a déclaré. En s'adressant à Omar, il a dit, « Toi qui jures, assieds-toi. » Ensuite, il a dit, « Arrête de jurer, ô Omar. » Quand Abu Bakr a commencé à parler, Omar s'est assis. Abu Bakr a fait les louanges d'Allah et il a déclaré que celui qui adorait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sache que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien mort. Quiconque adorerait Allah, eh bien, qu'il se souvienne qu'Allah est vivant et qu'il ne mourra jamais. Il a dit que celui qui adorait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sache que Mohammed est bel et bien mort. Quiconque adorait Allah, qu'il se souvienne qu'Allah est vivant et qu'il ne mourra jamais. Ensuite, Abu Bakr a récité ce verset. Innaka mayitun wa innahum mayitun. C'est-à-dire, tu vas mourir et aussi mourront. Il a aussi récité ce verset. Wa ma Muhammadun illa rasul, kad khalat min kablihi rasul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ أَقِبَيْهِ فَلَنْ يَدُرُ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. À savoir, Muhammad n'est qu'un messager d'Allah. En vérité, tous les messagers avant lui sont morts. S'il mourait ou s'il était tué, est-ce que vous allez retourner sur vos pas? Et celui qui retourne sur ses pas ne nuira nullement à Allah. Et Allah récompensera sûrement ceux qui lui sont reconnaissants. Suleyman disait que lorsque les gens ont entendu cela, ils ont tellement pleuré que leurs hoquets ont cessé. Ibn Abbas déclare, « Par Allah, il semblait que les gens ne savaient même pas qu'Allah avait révélé ce verset jusqu'au moment où Abu Bakr l'a récité. » C'était comme si tous les gens avaient appris ce verset d'Abu Bakr. Ensuite, tout le monde récitait ce verset. Zuhri relate que Saïd bin Musayyib lui a dit que Omar a déclaré « Par Allah, dès que j'ai entendu Abu Bakr réciter ce verset, j'ai eu tellement peur que mes pieds ne pouvaient plus me soutenir. Je suis tombé au sol. » Quand Abu Bakr a récité ce verset, j'ai su que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était bel et bien mort. Le Messie premier d'Islam a cité le texte arabe de ce hadith en question. Je présente ici la traduction. Le texte original en arabe sera publié plus tard. Le Messie premier d'Islam déclare donc que Ibn Abbas relate qu'Abu Bakr est sorti le jour du décès du saint prophète Mohammed, puis soit lui. Omar s'adressait à l'assistance. C'est-à-dire, il disait que le saint prophète, paix soit sur lui, n'était pas mort, mais qu'il était vivant. Abou Bakr a déclaré, « Oh Omar, assieds-toi. » Mais Omar a refusé de s'asseoir. Les gens se sont tournés vers Abou Bakr et ils ont quitté Omar. Sur ce, Abou Bakr a déclaré, « Louange à Allah. Quiconque d'entre vous adorait Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dit bien qu'il sache que Mohammed, paix soit sur lui, est mort. » Quiconque d'entre vous adorait Allah, eh bien, qu'il sache qu'Allah est certainement vivant et qu'il ne mourra pas. La preuve de la mort du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est qu'Allah déclare qu'il n'est qu'un messager et que tous les messagers sont décédés avant lui. Abou Bakr a récité ce verset jusqu'au mot Ash-Shakirin. Ensuite, il a déclaré que le narrateur a déclaré que c'est comme si les gens ignoraient que ce verset avait été révélé par Dieu et qu'ils l'ont découvert quand Abou Bakr l'a récité. Ainsi donc, tous les compagnons ont appris ce verset d'Abou Bakr et aucun compagnon ou non-compagnon n'a cessé de réciter ce verset. Omar lui-même déclare, « Par Dieu, j'ai entendu ce verset d'Abou Bakr. Quand il a récité, j'ai perdu tous mes sens et mes jambes ne pouvaient plus me soutenir. Je suis tombé au sol quand j'ai entendu ce verset qui disait que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est mort. » Voici le texte de Kassalani, l'exégèse d'Al-Bukhari. Le Messie promet de salam déclare, « Voici donc le texte de Kassalani, l'exégèse d'Al-Bukhari. » Il est dit que Omar bin al-Khattab disait que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, n'est pas mort et qu'il ne mourra pas avant d'avoir tué les hypocrites. Omar disait que le saint prophète, paix soit sur lui, n'est pas mort et qu'il ne mourra pas avant d'avoir tué des hypocrites. Voici un autre ici à ce propos. La traduction de ce texte est comme suit. Que Omar bin Khattab, radhiyallahu anhu, disait « Je trancherai avec mon épée la tête de celui qui déclare que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est décédé. » Le saint prophète, paix soit sur lui, a été élevé au ciel à l'instar de Isa ibn Maryam. Abou Bakr a déclaré, « Quiconque adore Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et bien qu'il sache que Mohammed, paix soit sur lui, est décédé. Quiconque adore le Dieu de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et bien qu'il sache qu'il est vivant et qu'il ne mourra pas. Dieu est celui qui vit à tout jamais. Tous les êtres humains et les animaux, quant à eux, meurent. Et même ceux qui pensent vivre éternellement doivent mourir au préalable. » Ensuite, Abou Bakr a récité ce verset, dont la traduction est comme suit. « Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'est qu'un messager. En vérité, tous les messagers avant lui sont morts. S'il mourait ou s'il était tué, est-ce que vous allez retourner sur vos pas ?» Dès que les gens ont entendu ce verset, ils ont abandonné leur idée. Si Abou Bakr n'avait pas tiré cet argument du Saint-Coran, à savoir que tous les prophètes sont morts, et si cet argument n'était pas clair et concluant, eh bien ses compagnons qui, selon vous, dénombraient plus de 100 000, l'auraient rejeté. Selon l'interlocuteur du Messie Premier des Salam, il y avait plus de 100 000 compagnons à l'époque. Le Messie Premier des Salam lui dit, « Eh bien, comment ses compagnons ont-ils été convaincus par des paroles douteuses ? Pourquoi ses compagnons n'ont-ils pas dit, « Cher maître, votre argument est incomplet et il n'y a pas de texte défini entre vos mains. Ignorez-vous toujours que le Coran lui-même a décrit l'ascension de Jésus au ciel dans son corps charnel dans le verset « Rafi'uka ilayya » N'avez-vous pas entendu parler du verset « Barrafa'ullahu ilayhi » Alors pourquoi pensez-vous que l'ascension du saint prophète Mohammed paix soit sur lui au ciel est impossible? Tel n'était pas l'argument des compagnons. Au contraire, les compagnons qui connaissaient le Saint-Coran ont abandonné la première pensée en entendant le verset et l'explication du mot « khalat » et l'explication de la clause « que s'il devait mourir ou s'il était tué. » Oui, leurs cœurs sont devenus très tristes et brisés en raison de la mort du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Leur vie a été écourtée, certes. Omar lui-même déclare que, après avoir entendu ce verset, mes jambes ne pouvaient plus me porter et je suis tombé au sol. Saint est Allah. Voyez à quel point ils étaient éclairés et attachés au Saint-Coran. Dès qu'il a entendu le verset et s'est rendu compte que tous les prophètes précédents étaient morts, il a commencé à pleurer et il était empli de chagrin et il n'a rien fait. À une autre occasion, le Messie Premier Salam a déclaré, « Omar a dit que je tuerai de mon épée quiconque affirme que notre maître Mohammed, paix soit lui, est mort. » Il est clair que Omar était allé trop loin concernant la vie du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et ce, en raison de certaines de ses idées. Et il considérait que la parole que la mort du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était une parole au relent d'incrédulité et d'apostasie. Que Dieu le Tout-Puissant accorde des milliers de récompenses à Abu Bakr. Abu Bakr qui a rapidement mis fin à ses troubles et qui a présenté la réalité, à savoir que tous les prophètes du passé sont morts. En fait, grâce à cette élucidation et grâce à ce consensus des compagnons, Abu Bakr a mis fin à de nombreux faux prétendants à la prophétie de l'époque de Fajr al-Awwaj, c'est-à-dire de l'époque des ténèbres et de l'égarement. Tout comme Abu Bakr a fait tuer Moussalima le menteur et Aswad Ansi, grâce à ce consensus de tous les compagnons, il a achevé les faux prophètes de l'époque Fajr al-Awwaj. C'est-à-dire, ils ont éliminé cette idéologie trompeuse, tout comme ils ont éliminé ces faux prophètes. En somme, ils n'ont pas tué quatre menteurs, mais cinq. Ensuite, le Messie Promet des Salam déclare « Ô Seigneur, accorde des millions de bénédictions à leur âme. » Si le mot « Khalat » dans ce verset signifiait que certains prophètes sont toujours vivants au ciel, alors dans ce cas, Omar aurait raison et ce verset ne lui aurait pas été nuisible, mais ce verset l'aurait soutenu. Mais la phrase suivante de ce verset en est l'interprétation. Il déclare que s'il mourait ou s'il était tué, le regard d'Abu Bakr est tombé sur cette partie du verset et affirmer que cette clause signifie tout simplement que tous les prophètes du passé sont tout simplement partis, soit qu'ils sont morts ou qu'ils sont toujours vivants, eh bien, c'est là une interprétation trompeuse, c'est un subterfuge. Il s'agit d'un mensonge flagrant contre la déclaration divine. Et ceux qui ne craignent pas le jour du jugement et qui l'interprètent contrairement à l'interprétation de Dieu sont sans aucun doute sous la malédiction éternelle de Dieu. Mais Omar ne connaissait pas ce verset à l'époque et certains des autres compagnons souffraient également de la même idée fausse et ils étaient pris dans l'oubli, l'oubli qui est le lot de l'humanité. Et ils croyaient que certains prophètes sont encore en vie et que ces prophètes reviendront au monde. Pourquoi donc le saint prophète ne serait-il pas comme eux? Voilà ce que pensaient ses compagnons. Mais Abu Bakr a récité le verset dans son intégralité. Et en lisant « S'il mourait ou s'il était tué », il a expliqué clairement que le terme « Khalat » possède uniquement ces deux sens. C'est-à-dire mourir de mort naturelle ou être tué. C'est là qu'ils ont accepté leur erreur et tous les compagnons étaient unanimes que tous les prophètes d'antan sont morts. Et les mots « s'ils mouraient ou étaient tués » les ont beaucoup affectés. Et tout le monde a abandonné sa croyance contraire à cela. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Le Messie Prophète Salam a présenté ses explications dans son ouvrage « Tohfa Ghaznaviyya ». Il déclare, dans un autre endroit, lors du décès du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, il y avait un consensus entre les compagnons que tous les prophètes étaient morts. Omar avait dit que le saint prophète n'était pas encore mort, il a brandi son épée. Mais Abu Bakr s'est levé et il a proclamé « Ma Mohammedun illa rasoul kad khalat min kablihi rasoul ». Ce moment était digne d'une scène de fin du monde quand le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, venait de quitter ce bas monde et l'ensemble des compagnons étaient réunis. et même l'armée d'Oussama n'était pas encore partie. En réponse, Omar Abou Bakr avait proclamé à voix haute que Mohammed était décédé et il a rappelé qu'il n'était qu'un prophète en citant ce verset. Si les compagnons n'avaient qu'une once de croyance dans le fait que Issa était toujours en vie, eh bien, ils auraient nié cet argument. Mais ils sont tous restés silencieux et ce verset était récité partout, comme si ce verset venait d'être révélé. Les compagnons n'étaient pas des hypocrites du genre à rester silencieux et à ne pas rétorquer et en se laissant impressionner par Abou Bakr. La réalité était celle mentionnée par Abou Bakr. C'est pour cette raison que tout le monde avait baissé sa tête. Tel était le consensus des compagnons. Omar disait également que le saint prophète allait revenir. Cet argument allait être parfait qu'à condition qu'il n'y ait aucune exception à ce sujet. Car si Issa était monté au ciel et s'il devait revenir en chair et en os, eh bien dans ce cas, cet argument ne tiendrait pas la route. Il s'agirait même d'une blague. Et Omar lui-même l'aurait nié. Le Messie premier d'Islam a mentionné ce point à maintes reprises dans ses différents écrits. J'ai mentionné cela en citant ces récits afin que ceux qui croient que Jésus-Christ est vivant au ciel puissent abandonner cette croyance et qu'ils puissent accepter que personne n'est monté vivant au ciel et que cela est impossible et que Issa alayhi salam est bel et bien décédé. Ibn Abbas rapporte, à l'époque du califat de Omar, je l'ai accompagné dans le cadre de son travail. Le calife Omar avait un fouet dans sa main et il n'y avait personne d'autre avec lui. J'étais le seul à l'accompagner. Il parlait tout seul et il se fouettait l'arrière de ses jambes. Soudain, il s'est tourné vers moi et il a dit, « Ô Ibn Abbas, sais-tu pourquoi j'ai dit le jour du décès du saint prophète Mohammed, peace be upon lui, qu'il n'était pas décédé et que je trancherais avec mon épée celui qui allait dire que le saint prophète était décédé ?» Ibn Abbas a répondu, « Ô émir des croyants, je l'ignore. » Et vous savez la raison derrière cette déclaration. Omar a déclaré par Dieu, « La raison était que j'avais pour l'habitude de réciter ce verset. » Ce verset où il est dit que « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا » C'est-à-dire que « C'est ainsi que nous avons fait de vous une nation élevée afin que vous soyez les gardiens des hommes » et afin que le messager d'Allah soit votre propre gardien. Omar bin Khattab a déclaré que, par Allah, je pensais que le saint prophète Mohammed, peace be upon him, allait demeurer en vie au sein de sa communauté pour être témoin de ses actions. C'est pour cette raison que j'avais tenu ces propos ce jour-là. Je réitère ici le récit tiré d'Al-Bukhari à propos de l'élection du calife Abou Bakr. Il est dit que les Ansar s'étaient réunis dans la maison de Sa'ad bin Ubadah et ils ont déclaré « Choisissons un émir de parmi nous et un émir de parmi vous les Muhajirines. » Abou Bakr, Omar et Abu Ubaida bin Al-Jarrah sont partis à leur rencontre. Omar a voulu prendre la parole, mais Abou Bakr l'en a empêché. Omar relate à ce sujet que je souhaitais prendre la parole parce que j'avais préparé un discours que j'apprécie beaucoup et j'avais peur qu'Abou Bakr ne fût pas aussi éloquent que moi. Mais son discours était meilleur que le mien. Et Abou Bakr a déclaré que nous, les Muhajirines, nous sommes les émirs et vous, les Ansar, vous êtes les vizirs. Abu Habab bin Munzir a répliqué, « Non, par Dieu, il n'en sera pas ainsi. Nous allons choisir un émir de parmi vous et un autre de parmi nous. » Abu Bakr a répondu, « Non, nous sommes les émirs et vous, vous êtes les vizirs, car les Quraychites, selon leur lignée et selon leur tribu, ont toujours occupé un statut plus élevé parmi les Arabes, et ce, depuis les temps les plus anciens. » Ensuite, il a présenté les noms de Omar ou d'Abu Ubaida bin al-Jarrah. Il a demandé aux musulmans de leur prêter allégeance. Omar a dit à Abu Bakr, « Non, nous allons vous prêter allégeance, car vous êtes notre chef et vous êtes le meilleur des nôtres. Et vous étiez le plus aimé par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Sur ce, Omar a attrapé la main d'Abu Bakr et il lui a prêté allégeance. Par la suite, les autres lui ont aussi prêté allégeance. Lorsque Omar a pris la main de Abu Bakr, il a dit « Acceptez notre allégeance ». Aussitôt, Omar a prêté allégeance à Abu Bakr. Il a déclaré « Ô Abu Bakr, le saint prophète, paix soit lui, vous avez ordonné de diriger la prière. Vous êtes donc le calife d'Allah. Nous faisons votre baïra car vous étiez le plus aimé du saint prophète Mohammed, paix soit lui. » La biographie d'Ibn Hisham relate ceci concernant la sédition des apostats. Il est dit que lorsque le saint prophète est décédé, les souffrances des musulmans ont pris de l'ampleur. Un récit m'a été rapporté par Aïcha. Elle déclare que lorsque le saint prophète est décédé, les Arabes, certains parmi eux, ont emprunté la voie de l'apostasie. Les Juifs et les chrétiens se sont soulevés et l'hypocrisie était devenue manifeste. Ceci a été rapporté par Ibn Ishaq. Abu Huraira déclare que lorsque le messager d'Allah est décédé et que Abu Bakr est devenu calife après lui, certains Arabes ont pris la voie de l'apostasie et Omar a demandé au calife Abu Bakr « Comment allez-vous vous battre contre ces personnes ?» Lorsque le saint prophète a déclaré que « J'ai été ordonné de combattre ces personnes jusqu'à ce qu'il déclare qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. » C'est-à-dire qu'il ne faut pas combattre celui qui déclare l'unicité de Dieu. Celui qui déclarera qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, eh bien, ses biens et sa vie seront préservés, à moins qu'il y ait une raison légale de ne pas le protéger, et Allah sera responsable de son jugement. Abu Bakr a déclaré par Allah, « Je combattrai celui qui fera une différence entre la salat et la zakat. » La zakat est un devoir financier, et par Allah, s'il refuse même de m'offrir une corde qui permet de lier les genoux qu'il offrait au saint prophète Mohammed, paix soit lui, eh bien, je les combattrai jusqu'à ce qu'il m'offre cette corde. Omar bin Khattab a ajouté par Allah, j'ai vu que par la suite, Allah avait convaincu Abu Bakr de combattre ses apostats. Et j'ai compris que c'était là la bonne chose à faire. Lors du départ de l'armée d'Oussama bin Zayd, Abu Bakr avait prodigué des conseils à Oussama, Oussama qui était sur sa monture, et Abu Bakr marchait à ses côtés. Oussama a invité Abu Bakr à monter sur une monture, sinon il allait marcher également. Abu Bakr lui a répondu, « Reste sur ta monture, par Dieu, je ne monterai pas. » Ensuite, il a déclaré, « Pourquoi est-ce que je ne vais pas marcher dans la voie de Dieu ?» Car en échange de tout pas que le combattant fait dans la voie de Dieu, eh bien, 700 actes de piété sont inscrits dans son registre et 700 exaltations de rang sont inscrits pour lui et 700 de ses péchés sont pardonnés. Après lui avoir prodigué ses conseils, Abu Bakr a déclaré que si tu le souhaites, eh bien tu peux m'aider à travers Omar. C'est-à-dire, il lui a demandé la permission de laisser Omar derrière lui car le saint prophète avait demandé à Omar de faire partie de l'armée d'Oussama et Oussama a accepté la requête d'Abu Bakr. À l'époque d'Abu Bakr, au cours de la bataille de Yamama, 70 Huffaz qui avaient mémorisé le Saint-Coran sont tombés à martyrs. Zayd bin Thabit Ansari relate à ce propos que Abu Bakr m'a fait appeler lorsque de nombreux musulmans de Yamama sont tombés à martyrs. Omar était à ses côtés. Abu Bakr a déclaré que Omar est venu me voir et m'a informé que de nombreuses personnes étaient tombées à martyrs lors de la bataille de Yamama et j'ai peur que d'autres caries. Des personnes ayant mémorisé le Saint-Coran de tombe en martyr au cours d'autres batailles, et qu'ainsi une grande partie du Saint-Coran ne soit perdue, à moins que tu ne compiles l'ensemble des versets du Saint-Coran dans un seul endroit, et je suis d'avis qu'il faut le faire. Abu Bakr a ajouté, j'ai dit à Omar, comment puis-je ordonner quelque chose qui n'a pas été ordonné par le Saint-Prophète Mohammed paix soit lui ? Omar a répondu, par Dieu, il s'agit d'une tâche noble. Omar a répété cela à maintes reprises au point où Allah m'a convaincu qu'il faut le faire et je considère pertinent ce que Omar a proposé. Zayd bin Thabit déclare que Omar était assis à ses côtés et il gardait le silence. Abou Bakr a ajouté, « Tu es jeune et tu es sage, et nous n'avons aucun soupçon à ton égard. Tu avais l'habitude de transcrire les révélations reçues par le saint prophète Mohammed, que ce soit lui. Cherche toutes ces parties du Saint-Coran et compile-les. » Zayd bin Thabit a répondu, « Je jure au nom de Dieu que s'il m'avait confié la tâche de déplacer une montagne d'un endroit à un autre, cela m'aurait été beaucoup plus facile que la tâche qu'il venait de me confier. » C'est-à-dire, la tâche de compiler le Saint-Coran était une tâche qui était très difficile pour lui. Zayd a répondu, « Pourquoi est-ce que vous entreprenez ce que le Saint-Prophète n'a jamais entrepris ?» Abou Bakr a déclaré, « Par Allah, il s'agit d'une tâche qui est noble. » Zayd a ajouté, « J'ai répété cela à maintes reprises jusqu'à ce qu'Allah m'ait convaincu, comme il avait convaincu Abou Bakr et Umar. Je me suis levé et je suis parti à la recherche de ces différentes parties du Saint-Coran. » Je les ai recherchés sur des morceaux de cuir, sur des omoplates, sur des branches de palmiers de date et dans la mémoire des gens. Et j'avais trouvé deux versets de la sourate Torba auprès de Huzaima Ansari, des versets que je n'avais trouvés chez personne d'autre. Il s'agit de ces deux derniers versets. L'un de ces deux versets se dit ainsi. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Assurément, un messager de parmi vous-même est venu à vous, qui s'afflige de vous voir en difficulté, qui est plein de sollicitude à votre égard et qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Le hadith relate qu'il y avait deux versets. Il s'agit là l'un de ces deux versets. Peut-être que l'autre verset est le verset d'après. Selon les récits, les feuilles sur lesquelles le Saint-Coran a été compilé sont restées en possession d'Abou Bakr jusqu'à son décès. Ensuite, c'était en possession de Omar jusqu'à son décès. Ensuite, cela a été transmis à Hafsa bint Umar. Ousman avait récupéré ces textes auprès de Hafsa bint Umar. Comme je l'avais dit auparavant. Je continuerai ces récits sur Omar radhiyallahu anhu la prochaine fois, Inch'Allah.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر